Dans mes souvenirs d'enfant, cette partie de la maison avait une odeur bien particulière, celle de la vieillesse et de la respectabilité, et que j'associe aujourd'hui aux années pompidoliennes. L'ancien temps, celui d'avant la technologie, celui du bois et de la mémoire. Dans la salle à manger, un piano droit avec un apron, des meubles qui servaient peu ou pas du tout, un téléviseur qui se réglait avec une molette comme une radio. Je me souviens, sous la fenêtre de la cuisine, d'avoir observé pendant des heures les boîtes de conserve à l'intérieur du garde-manger. Je revois les pommes de terre d'où jaillissaient des germes tordus comme autant de bras de fœtus qui s'agiteraient pour rien. Ma grand-mère est là, dans ces pièces qui ont été repeintes depuis, retapissées, dans ces meubles que l'on a tendus de tissus des toiles de Mayenne. Mais son esprit demeure. Avec lui, une odeur d'antimite et de poussière. Et malgré le temps, son visage apparaît, sa voix grinçante comme un parquet de châtaigniers. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je vous souhaite la bienvenue sur Radio G, chez Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez, en podcast sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est fragile une grand-mère, fragile et précieux, on n'en a que deux. On les rencontre déjà vieilles. On ne connaît généralement qu'un petit bout de leur vie qui est toujours plus grande que ça. Il y a nos souvenirs et puis ceux des autres qui s'entremêlent pour essayer de les redessiner, juste quelques traits. Pour Jérôme Chantreau, l'auteur de « Avant que naisse la forêt », dont je viens de lire un extrait, sa grand-mère, c'est un esprit qui demeure, un visage, une voix qui résiste au temps et à la disparition. On parlera aussi d'un présent avec grand-mère, avec notre invité du jour, que je suis ravi d'accueillir, Quentin Ménard, qui est comédien, scénariste et réalisateur, mais aussi co-dirigeant d'une friperie à Angers, qui s'appelle CAS, et aussi patient simulé dans le cadre de formation à l'empathie auprès des professionnels de santé. Quentin est notamment auteur de courts-métrages « La vie, c'est pas un jeu » avec sa grand-mère, on en parlera, et « Vive l'âge », qui a été tourné au cœur d'une résidence de vie pour seniors. Bienvenue Quentin, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de tes grands-mères ou de leurs souvenirs.
Eh bien, merci pour l'invitation. Très heureux d'être là en ce moment matinal.
Quentin, première question rituelle de cette émission, c'est quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors, pour ma mamie, la maman de mon papa, elle s'appelle Jacqueline. Donc, mamie Jacqueline. Et pour ma grand-mère, la maman de ma maman, surnommée Mémère, elle s'appelle Marie-Jeanne. Il y a un peu un sujet là-dessus, elle pense qu'en réalité, en fait, elle s'appelle Marie, mais on l'a toujours appelée Marie-Jeanne, et c'est pas trop si Jeanne, c'était son deuxième prénom, ou si c'était Marie-Jeanne.
Alors tes deux grand-mères, elles sont encore là, toutes les deux? Elles sont encore près de toi?
Ma mémère est encore là, et bien là, et mamie est décédée il y a quelques années.
Quelle relation tu as, ou tu avais avec tes deux grand-mères? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lien?
Eh bien, concernant ma mamie, du coup, mamie Jacqueline, on se voyait assez rarement. Elle habitait pourtant pas très loin là, des studios, dans les bâtiments, là, les gros bâtiments le long de la route pour aller à Espace Anjou. Et on se voyait pas souvent, un peu à des moments comme ça, familiaux basiques, les enterrements, les décès, pour des anniversaires ou des mariages. Et puis, quand j'étais plus petit, quelquefois, j'allais chez elle. Mais c'était à nouveau assez rare. Donc, on n'a pas développé un rapport, je dirais, très complice. Mais j'y garde, malgré ça, un souvenir plutôt attendri d'elle comme étant une femme gentille. Gentil, voilà, c'est ce que je dirais, quelqu'un de gentil, de calme, de détendu. Et puis, ça reste, bien sûr, ma mamie, donc quelqu'un qui sûrement fait partie de moi, et puis sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, quand même.
À quoi elle ressemblait? Est-ce que tu peux nous la dessiner un petit peu? Quel métier elle faisait aussi? Voilà, c'était quoi son geste aussi, et sa manière d'être?
Carrément. Eh bien, donc, mamie Jacqueline, une dame assez petite, avec des lunettes, avec des verres assez épais, un peu des cheveux, un peu, que je dirais, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais assez court et assez bouclé, je dirais. qui pouvait avoir une attitude comme ça, comme si elle était assez, assez fatiguée sur le moment dans sa manière de faire. Et en même temps, on sentait que derrière cette chose-là, il y avait une envie aussi de quelquefois sortir un peu de cet état-là et de passer des moments un peu plus uniques. Je me rappelle d'une soirée où elle était venue chez ma maman à Trélazé avec mon père qui était là. Et elle était venue seule. Et à cette soirée, je l'avais découvert différemment. Avant, je venais toujours dans le cadre de son appartement, dans son territoire à elle, avec mon papy. Et là, l'avoir sortie de ce contexte-là et de l'avoir seule, je sentais qu'on pouvait partager autre chose dans sa manière. Il y a quelque chose de plus vif, une envie de profiter, une envie de faire quelque chose d'un peu plus fou cette soirée-là. Et plus de rire, plus de bêtises. Et du coup, je pense que si ce genre de moment avait été multiplié, peut-être qu'on aurait développé un rapport plus poussé. Et dans sa vie, en fait, elle a eu quand même une place qui a été assez importante consacrée au fait d'avoir des enfants, parce qu'elle a eu 7 enfants et 7 fils, que des mecs, dont mon père. Et ça a été déjà quelque chose d'assez occupant, et j'en profite évidemment pour les saluer, mes oncles et puis tous mes cousins, cousines.
Il y a une armée de tontons là.
Ah ouais, il y a une armée de tontons. Certains malheureusement sont décédés. Mais il y a une énergie comme ça autour de cette famille qui, du coup, dont le nom de famille est Ménard. Ma mamie s'appelait Ménard Delien. Et il y a une énergie comme ça dans cette famille qui, d'ailleurs, avec le temps, est en train de se rapprocher, quoi. On sent que depuis un moment, par exemple, avec mes cousins, cousines, on commence à se voir de plus en plus. Les oncles aussi, on commence à organiser de plus en plus de repas. Et à chaque fois qu'on se voit, je trouve que la qualité de nos relations est de meilleur en meilleur, quoi. Donc ça, c'est très agréable, vraiment très satisfaisant. Et c'est possible que, voilà, mamie, d'où elle est, peut-être participe à tout ça. Et voilà, pour ça, merci.
Et est-ce que vous parlez d'elle pendant ces moments-là avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines?
Ouais, on parle de mamie et papy. Alors, pas sur la longueur, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant, en effet, de tous développer la vision, le souvenir qu'on en a. Je pense que quelquefois c'est un sujet dans notre famille qui peut être aussi parce que nos papas, donc les frères, ont un souvenir de leur enfance quelquefois assez partagé sur le souvenir et le vécu qu'ils en ont, pas que des bons souvenirs comme dans beaucoup de familles. Et du coup, voilà, je pense que c'est un sujet quelquefois qu'on n'aborde pas tous forcément, alors que ça serait sûrement intéressant et important de l'avoir. Mais oui, entre cousins, cousines, on en parle. Je sais qu'il y en avait certains qui, justement, étaient plus proches. Et notamment, un de mes oncles, Yvan, qui, je pense, lui, a passé plus de temps avec papy et mamie, puisque pendant un moment, il habitait à côté de chez eux. Donc voilà. À vrai dire, c'est vrai que je ne sais même pas à quel point le manque de leur présence se fait ressentir chez telle ou telle personne dans la famille, quoi.
Oui, c'est on a les mêmes proches dans la famille, mais en fait chaque relation est très différente et les souvenirs sont très différents, et c'est intéressant aussi de confronter chacun les souvenirs.
Total, et de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas du tout vues, que potentiellement ma mamie, c'est quelqu'un dont peut-être j'aurais pu être extrêmement proche en ayant eu des choses un peu différentes, en fait juste en se voyant plus, quoi, et dans un autre contexte. Donc en effet, c'est toujours intéressant d'en apprendre plus. Et d'ailleurs, mon papy aussi, je m'étais rendu compte quand il était malade à la fin de sa vie et que j'allais le voir, et bien pareil, je partageais des moments avec lui totalement différents de ce que j'avais pu avoir avant, et il se livrait à un endroit aussi très différent. Il m'a dit des choses que j'ignorais complètement, notamment qu'il aimait le théâtre avant, il me récitait des textes, des choses que j'aurais jamais pu imaginer de lui. Donc c'était ça, par exemple, ça avait été surprenant. Et puis être surpris, de toute façon, c'est quelque chose qui est quand même toujours agréable quand on sait l'accueillir, quoi. Donc voilà, moi je demande qu'à être surpris.
Et être surpris par l'être humain qui a toujours été là, qui est un proche, qu'on voit toujours, mais en fait, et c'est ce que tu révèles dans cette soirée dont tu nous parlais au début, et dans ce moment particulier un peu âpre avec ton grand-père, c'est que dans un espace nouveau, l'être humain, même s'il est très proche, il se révèle dans toute sa densité, sa profondeur, sa largeur, et on découvre quelqu'un, quoi, même si c'est un membre de sa famille. C'est très intéressant, cette idée-là.
Total. Je pense qu'en effet, dans les familles, il y a des fois des postures qui peuvent se créer, du rapport grand-parent-enfant, et que des fois, peut-être, on reste dans ce cadre-là. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, et c'est ce que je vis du coup avec mes mères, mon autre grand-mère, c'est que j'ai la chance d'avoir un rapport avec elle qui est vraiment extrêmement fusionnel. Et que je l'aime comme grand-mère, mais que je l'aime aussi pour vraiment la personne qu'elle est, quoi. Et du coup, ça, je trouve, quand on arrive à dépasser les rapports pour vraiment rentrer en profondeur avec la personne qu'on a en face de nous, là, ça devient magique, en fait, quoi.
Ouais, il y a l'idée que l'amour automatique pour ta grand-mère, là, en l'occurrence, parce qu'il y a la filiation, il est doublé d'un amour aussi parce que la personne t'intéresse, parce que c'est fusionnel, parce que vous vous êtes retrouvés sur des thèmes et vous passez des bons moments, c'est très fort, j'imagine.
Ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça s'est fait aussi dans le temps, mais on a toujours été extrêmement fusionnel, et puis la vie a fait ça, quoi, quand j'étais petit.
Tu l'as senti dès petit, cette relation forte ?
Oui. Ouais, mais parce que aussi je passais beaucoup de temps avec elle, quoi. Je pense que c'est très lié à ça aussi. Quand j'étais petit, ma grand-mère me gardait régulièrement, donc on a développé ce rapport très vite. Et puis avec le temps, il a changé, et j'ai l'impression qu'il change très souvent, quoi. C'est-à-dire, quand je dis, c'est pas des grands changements, mais il évolue en continu, quoi. Moi, j'ai vraiment ce ressenti en moi. C'est-à-dire que plus le temps avance, et plus je l'aime, quoi. C'est vraiment, je sais pas par où commencer, parce que du coup, j'ai rattaqué là-dessus sans reprendre par le début. On va peut-être recommencer à zéro
C'est très bien. Marie-Jeanne ou Marie, mes mères, elle est venue comme ça, elle est arrivée dans la conversation parce que tu l'as introduit en parlant d'amour, et c'était parfait, c'était la parfaite introduction. Mais peut-être effectivement, comme on l'a fait pour Mamie Jacqueline, tu peux nous dire à quoi elle ressemble, Marie-Jeanne, même si on parlera après un peu d'un projet qui va faire que les gens pourront aller la voir en vrai, je crois.
Carrément. Donc mes mères, Jeannette, Marie-Jeanne, donc nom de famille Bahuon. Elle fait en taille, je saurais pas dire, je dirais une taille moyenne, quoi, ni petite ni grande. Elle perd quelques centimètres là quand même avec les années, mais je trouve qu'elle dégage quand même quelque chose de pas quelqu'un de petit. Et elle a le plus beau ventre du monde. Elle a un beau bidon de grand-mère, parce qu'elle aime bien manger du beurre et du sucre. Plus les années passent, plus elle aime le sucre. Et elle a les cheveux aussi assez courts, une coiffure de assez belle pour une grand-mère, parce qu'elle se fait couper les cheveux par le meilleur coiffeur au monde, dédicace à Emmanuel. Et voilà, quoi, elle porte des lunettes qu'elle enlève par moments. Et elle a 89 ans, elle va avoir 90 ans en février prochain. Et voilà, je lui ai toujours dit, je lui ai dit dernièrement, je veux que quelqu'un après Jeanne Calment dise Marie-Jeanne Bahuon, quoi. Donc elle connaît l'objectif, quoi. L'objectif, c'est d'aller... d'aller affronter Jeanne Calment. Donc,
voilà. Toi, tu es ambitieux souvent avec les grands-mères. On se dit, tu vas être centenaire. Il faut aller jusqu'aux 100 ans. Toi, tu fixes la barre encore plus haute.
Ah ouais, je fixe la barre plus haute. Et vraiment, d'ailleurs, je vois avec le temps que... Enfin, avec ma grand-mère, comme on passe beaucoup de temps ensemble, je crois de plus en plus au fait que même elle peut gagner en forme, quoi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas dans un truc de me dire plus elle va vieillir, plus ça va devenir compliqué, etc. Je suis plutôt dans un truc de depuis tant d'années, elle fait les choses comme ça, donc maintenant on va essayer de faire d'autres trucs, et en fait ça va la EP, genre elle va même devenir de mieux en mieux, quoi. Donc je vois le truc complètement à l'envers.
Il y a l'idée d'objectif, de projet, d'émulation qui va faire qu'on va mieux, quoi. On défie le déclin, quoi.
Exact. On essaie l'état d'esprit en fait dans lequel on est. Moi, ça m'intéresse beaucoup à nouveau la manière dont on perçoit les choses, l'état d'esprit dans lequel on est, à quel point évidemment ça vient impacter de manière concrète notre vie. Et du coup, quand tu disais au début par rapport au métier que je fais, patient simulé, donc ça c'est dans le cadre de mon métier de comédien, je joue, donc je me mets dans la peau de patient pour travailler avec des professionnels de santé. Et du coup, via ce travail que je fais depuis à peu près 10 ans, je vois aussi la recherche médicale qui est autour de ça, qui en découle et qui explique vraiment aujourd'hui que si le métier que je le fais, c'est parce qu'en fait, la manière dont par exemple un professionnel de santé annonce une maladie grave à une personne, va véritablement impacter la vie qu'on va avoir avec notre maladie, voire même notre capacité de guérison. Et j'ai plein d'exemples de vie. Une amie, par exemple, Judith, à qui on avait annoncé une maladie compliquée quand même, un syndrome assez rare, dont elle ne devait pas guérir. Et elle m'avait expliqué que quand le médecin lui avait dit « voilà, c'est une maladie rare et tout », et qu'elle l'a regardé dans les yeux, elle n'a pas eu peur une seule seconde, et elle lui a dit « maladie rare, meuf rare ». Et dans sa tête, elle était là « mais en fait, moi, je vais guérir ». Et elle a guéri.
Oui, cette rareté, elle en a fait un allié en disant « c'est moi, ça me ressemble ». Ouais.
Exactement. Et du coup, je pense que vraiment, la manière dont on perçoit les choses... C'est absolument énorme. Et du coup, ma grand-mère a cette mentalité de base. Et moi, je l'ai aussi. Donc, ça fait une bonne équipe pour réussir à défier des moments de vie, dont un d'ailleurs qu'on a pu traverser il y a 2 ans, où tous les médecins nous l'ont annoncé morte. Et elle en est sortie. Et aujourd'hui, elle va très bien. Donc... on a fini par en avoir l'exemple concret. Et donc voilà, on continue à être dans cette dynamique-là en ayant l'impression que rien ne pourra venir empêcher ça, quoi.
Et cette période, tu l'as vraiment épaulée aussi psychologiquement pour être dans cet esprit-là dont tu viens de nous parler.
Ouais, exactement. En fait, ma mère a eu un Covid grave il y a 2 ans. Elle a été hospitalisée... insuffisance respiratoire extrêmement importante. Une situation terrible, quoi, où les médecins sont venus nous voir en nous disant il n'y a aucune chance qu'elle s'en sorte. C'est impossible. Du coup, on vous propose de lui donner de la morphine et puis elle va partir tranquillement sans souffrance, quoi. Et en fait, moi, j'ai complètement refusé. J'ai dit c'est hors de question. Je sais que ma grand-mère va sortir d'ici. Et ma mère a décidé évidemment de se battre aussi, elle était là. Malheureusement, ma mère a aussi eu le Covid, en fait, lié à avoir fréquenté ma grand-mère, et un Covid aussi important avec son mari, mon beau-père. Donc, ils se sont trouvés tous les deux confinés dans une maison et ne pouvaient plus aller à la clinique. Et en fait, j'ai passé du coup 10-15 jours à dormir sur place au sol avec elle dans la chambre. Et après, j'ai 3 personnes très proches de moi, Roxane, Laurie et Régis, qui sont venus...
Ils sont venus t'épauler et puis relayer un petit peu.
Qui sont venus aussi s'occuper d'elle, et pour la nuit, pouvoir s'occuper d'elle, etc. Et en fait, elle est sortie de là, quoi. Donc, les médecins ont complètement halluciné. Le Covid est parti. Elle faisait un dérèglement cardiaque, etc. Elle est rentrée à la maison. Waouh, putain. Bon, désolé, il faudra pas garder ça, parce que les pauvres, les gens, je vais les blaser, là.
Ça va, il y a du sourire qui revient juste après. C'est un bon souvenir.
En vrai, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, la chance qu'on a immense, c'est que ce soit un bon souvenir, parce qu'elle est là et elle va bien, quoi. Donc, vraiment, maintenant, je suis dans cette croyance que quand on dit aux gens « tu vas t'en sortir », et que la personne profondément, réellement au fond d'elle est persuadée qu'elle va s'en sortir, ça nous donne une force qui est complètement immense.
Ça influence et cette histoire doit te nourrir et doit te donner une force dans l'activité dont tu nous as parlé et dans ton engagement aussi dans ce thème-là. Quoi.
Ouais.
Et alors, pour reparler encore un petit peu de Marie-Jeanne, de Marie, de mes mères, est-ce que tu peux nous parler du projet donc, de court-métrage que tu as réalisé, tourné avec elle? Raconte-nous un petit peu cette expérience.
Ouais, donc pour reprendre un peu la source, c'est, donc, ma grand-mère habite à Trélazé. Sa famille est venue de Bretagne quand elle était petite pour travailler dans les mines d'ardoise, comme énormément de Bretons à Trélazé. Elle a travaillé, elle, toute sa vie dans l'usine Thomson, fabrication de télévision. Et avant ça, elle avait travaillé à Bessonneau, fabrication de filets de pêche. Et mon grand-père, Pépère, travaillait dans les mines d'ardoise comme mineur. Et donc, toute sa vie, ma grand-mère a eu une vie assez intense. Beaucoup de travail, deux enfants à s'occuper, Pascal... ma maman, Laurence. Et donc, en vieillissant, moi, plus je passais du temps avec elle, plus j'apprenais à nouveau à la connaître. Et puis, on était très proches, très proches. Moi, je suis parti 3 ans en études à Montpellier. Je sais qu'à chaque fois que je partais, je revenais tous les 2 mois. À chaque fois que je repartais, c'était terrible. Enfin, je pleurais énormément. Ma grand-mère et ma mère, c'était très dur pour moi d'être loin d'elle. Et en fait, quand je suis revenu après mes études à Angers, pour expliquer un petit peu, je me perds, mais c'est pour expliquer, pour refaire le fil après de comment mon rapport à mes grands-parents s'est fait, c'est qu'après mon école à Montpellier, je suis parti pendant 2 ans en tournée dans une pièce de théâtre qui a tourné partout en France sur des scènes comme le théâtre Le Quai à Angers où on a joué. Et c'est des tournées de spectacles... où en fait, c'est un peu cette chose qu'on dit au théâtre en tant qu'acteur, quoi qu'il arrive, je monterai sur scène, quoi qu'il arrive, je jouerai, même si j'apprends un décès 1 heure avant de jouer, j'irai sur scène, etc., qui sont un peu des grandes phrases. Et en fait, moi, quand je jouais dans le Sud, mon papy, du coup, du côté de mon père, le mari de mamie dont je parlais tout à l'heure, est décédé, et en fait, j'ai pas pu aller à son enterrement parce que je jouais, et ça, pour moi, ça a été une violence énorme. C'est-à-dire que j'ai pas du tout vu ça comme une bravoure de « je suis monté sur scène ». Pour moi, c'était un non-sens total de ne pas être présent à un moment de famille comme celui-ci. Et donc, après cette tournée, alors que c'était un spectacle formidable et que j'adorais ce métier, j'ai décidé de ne plus jamais partir en tournée en tant qu'acteur, parce que pour moi, c'était impossible de ne pas être présent totalement s'il fallait être présent à des moments. Et à ce moment-là, et du coup, en grand-parent, il ne me restait plus que mes mères.
Tu pensais à elles travers cette perspective, évidemment.
Exactement. Et aujourd'hui, du coup, ce que j'ai vécu avec ce Covid m'a confirmé que potentiellement, j'ai eu raison de le faire parce que sinon, j'aurais peut-être été en tournée et que je n'aurais jamais vécu cette chose-là avec elle. Comme d'ailleurs, mais plein d'autres moments dans ma vie aujourd'hui où je me dis heureusement que je me suis rendu disponible parce que ça m'a permis de vivre plein de choses, quoi. Et donc, c'est là que j'ai développé plutôt ce métier de patient simulé qui m'a permis de rester acteur, mais d'être plus souple. Et donc, je refais le fil. Ma grand-mère, en fait, a trouvé un nouveau compagnon par la suite, après le décès de Pépère, mais il y a très longtemps, j'avais 8 ans, donc ça fait à peu près 25 ans, on va dire, que Pépère est décédé. Et du coup, elle a rencontré Georges, qui habitait au Havre, et elle faisait les allers-retours avec lui au Havre jusqu'il n'y a encore pas si longtemps, et il y a quelques années, Georges, malheureusement aussi, est décédé. C'était quelqu'un qu'on aimait énormément, et évidemment surtout mes mères. Et là, à ce moment-là, c'était début de Covid, vers 2020, quoi. Et elle venait de perdre Georges. Et donc, je me suis dit, waouh, là, ça fait énormément de choses d'un coup pour une personne de son âge. Et je lui ai demandé si elle voulait que je vienne habiter chez elle. Donc, elle m'a accueilli. Et donc, j'ai passé à ce moment-là plusieurs mois en cohabitation avec elle dans sa maison. Et là aussi, alors qu'on était déjà très proches, mais notre rapport a explosé, quoi, parce que d'un coup, enfin, explosé dans le sens positivement, c'est-à-dire a vraiment grandi.
Il y avait un quotidien à partager, ça a densifié un petit peu la relation.
Exactement. Le quotidien et le fait de voir ce qu'elle était capable de faire pour moi, la personnalité qu'elle avait, de vraiment la découvrir et puis de lui donner ce que moi j'arrive à lui donner aussi. Et donc, par cette relation, par ce rapport, par ce quotidien, il s'avère que j'avais toujours voulu réaliser un premier film. Et je me suis dit que là, c'était évident de le faire avec elle. Et comme mes mères et moi, on fait beaucoup de jeux, on s'amuse beaucoup, et qu'il y avait donc un concours de films qui s'appelle le Nikon Film Festival, dont la thématique de cette année-là était le jeu, je me suis dit, bon là, c'est évident, let's go, on fait un film. J'ai un ami qui s'appelle Aurélien Salé, qui est réalisateur et qui était dans le coin aussi, chez ses parents à Trélazé. Il a accepté de venir clairement nous aider à faire ce film en prenant en charge tous les aspects techniques et donc c'est comme ça que j'ai fait ce film avec Aurélien et avec mes mères. Et en effet, donc, c'était un concours dans lequel il y avait 1673 films et on a eu la mention spéciale du jury. Donc ça nous a permis en fait derrière d'avoir accès à des choses complètement hallucinantes. Voilà.
Comme par exemple
montrer sur la scène du Grand Rex à Paris, être invité par Pierre Lescure à venir au Short Film Corner au Festival de Cannes et à être dans les...
Toi et mes mères, alors tous les deux.
Mes mères et moi, et à être dans les rangs de Pierre Lescure au Festival de Cannes à la clôture du Festival de Cannes, genre troisième rang dans le palais, devant nous l'équipe du film du dernier OSS 117, donc Jean Dujardin, Pierre Ninet, etc. Enfin, juste une dinguerie absolue. Donc, on a passé une semaine au Festival de Cannes, mes mères et moi. Quoi.
Ça s'appelle La vie, c'est pas un jeu et on peut le retrouver partout, ce très beau court-métrage. Merci beaucoup, Quentin, d'être venu dans Albertine partager tout ça. C'était magnifique à entendre. Merci à tous et à toutes les auditrices, les auditeurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio G. Comme à chaque fin d'émission, on va terminer avec un petit texte et je laisse la parole à notre invité, Quentin Ménard.
Eh bien, écoute, à faire ce moment avec toi, je me suis finalement dit que j'allais improviser quelque chose.
Parfait.
Donc, je vais essayer de dire ce que je ressens. Et du coup, ce message va plutôt s'adresser, en fait, aux personnes qui sont comme moi, qui sont des petits-enfants ou qui sont des enfants, et se dire tous ensemble que voilà, les personnes vieillissent, etc., mais que en fait véritablement il faut qu'on soit extrêmement proche d'elles. Je crois que cette génération là, en plus de nos grands-parents de maintenant là, de ceux qui sont encore là, est vraiment très importante pour notre société, parce que c'est la dernière génération en fait qui n'a pas vécu avec ses écrans. C'est la dernière génération qui a pas eu de téléphone portable, d'ordinateur, internet. Et que du coup, elle est vraiment très précieuse dans notre société, parce que les grands-parents de demain seront probablement des grands-parents différents qui regarderont des téléphones, regarderont des ordinateurs. Et du coup, je vois en tout cas chez ma grand-mère une notion du présent, de l'instant, qui moi me fait un bien complètement immense. Et souvent, ce que me dit ma grand-mère, quand je la vois et que là elle me parle, elle me sort tous les trucs, tous les ragots de la journée qu'elle a accumulé, et que je me prends tout ça, et que des fois je viens de me faire une journée de travail et que je lui fais ah mais mère attends là, attends deux secondes et tout machin, et elle me dit bah, attends mais moi j'ai parlé à personne de toute la journée, faut bien que je parle quoi. Et là quand elle me dit ça, elle me cueille directement, je m'assois et je fais ah oui désolé mes mères, allez vas-y fais-toi plaisir. Et donc je pense que voilà, il faut capter cette chose là quoi, c'est-à-dire que les personnes âgées, elles ont pas beaucoup de personnes à parler, des fois elles voient personne pendant plusieurs jours, et donc c'est extrêmement important d'être présent, d'accueillir la parole, de questionner, de s'intéresser et de vraiment les écouter. Et du coup des fois on dit ah mais les personnes âgées elles écoutent pas et parlent un peu et tout, mais oui, mais parce qu'en fait des fois ça fait plusieurs jours qu'elles n'ont parlé à personne, donc voilà, et leur montrer qu'on les aime, qu'elles sont là, qu'elles sont importantes, de les appeler. Moi, mes mères, on s'appelle 4 fois par jour quand je ne suis pas là. Voilà, de créer du rituel, de montrer que la personne est importante et qu'on compte sur elle. Parce que aussi, dans la médecine, on le voit souvent quand des personnes tombent, se font des cols du fémur et tout, c'est aussi souvent lié à des personnes qui sont des fois un peu trop isolées. Donc, l'état d'esprit, à nouveau, hyper important. Donc, voilà, soyons présents, soyons là, soyons aimants, quoi. Et puis, tout ira bien.